L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. Le jeudi, c'est écologie et parfois c'est Bretagne vivante qui vient nous émerveiller de la nature. Alors, il y a eu beaucoup d'animaux à plumes, à écailles, à poils. Cette fois, on s'est dit qu'il était temps de se pencher vers le monde végétal, peut-être plus lointain pour nous les humains, mais en fait tout aussi étonnant. Aujourd'hui, c'est décidé. On change votre regard sur le végétal, rien que ça. Parce que nous, les humains, on aime se raconter des histoires avec des bons et des méchants, et on le fait aussi pour les herbes. Avec nous, il y a un naturaliste de l'association Bretagne Vivante, qui est éducateur à la nature même, et donc il est plutôt botaniste, même s'il nous a déjà parlé des oiseaux, des libellules et des demoiselles. Bonjour Luc Guillard.
Bonjour.
Alors, on a eu l'idée de parler des mauvaises herbes dans cette émission, mais pourquoi donc ?
Parce que j'ai été interrogé à plusieurs reprises sur le sujet récemment. Et je me suis dit, c'est marrant, voilà quelque chose, comment dire, une idée une idée fausse à laquelle il faudrait tordre le cou, urgemment là.
Et pourtant, ça fait longtemps que ça existe, cette idée de mauvaise herbe.
Oui, c'est vrai. Et puis, on a du mal à s'en défaire. Donc, on va essayer de regarder les choses autrement.
Et dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a inventé la notion de mauvaise herbe ? Est-ce qu'on a réussi à trouver l'auteur de cette notion ?
Alors, il n'y a pas eu de recherche vraiment, ou alors, en tout cas, je l'avoue, je ne l'ai pas faite. J'ai une hypothèse, ou l'hypothèse qu'on pourrait émettre, c'est que cette notion-là a dû naître avec, en même temps que l'agriculture, quand les premiers agriculteurs se sont retrouvés avec des plantes non désirées dans leurs champs, et puis qu'ils se sont mis à trier un petit peu les choses, et ils ont considéré une partie de ces plantes comme étant des concurrentes de leur culture, qui leur posaient des problèmes de rendement, qui salissaient les cultures, ils mélangeaient les semences, enfin bref. Et donc c'est à ce moment-là que je pense cette idée de mauvaise herbe est née. Alors est-ce que nos ancêtres l'appelaient mauvaise herbe ? Ça, j'en sais rien.
Oui, pour le nom. Alors on a un nouveau nom, c'est pas tout à fait nouveau, mais ça fait plus savant, disons. C'est plante adventice, ça veut dire quoi, adventice ?
C'est le vrai nom qu'on doit leur donner, en fait. Ça veut dire qui vient avec.
Ah, d'accord. C'est juste ça, quoi.
Ouais, qui advient en même temps. Et ça fait bien le lien, justement, avec le lien avec l'agriculture, puisque, justement, ces plantes-là qui sont fait remarquer sont celles qui venaient en même temps que les choses qui étaient semées, en fait.
Bon, d'accord. Mais, parfois, elles viennent toutes seules, hein, ceci dit.
Oui, elles viennent toutes seules. Enfin, c'est pas sûr.
Ah oui, c'est pas sûr.
Non,
ah.
Elles peuvent venir avec les semences qui... quand on doit trier des semences pour produire des semences à semer, dans le tri des semences, on va sélectionner, on doit garder les bonnes, en fait, si vous voulez, du blé, par exemple, ou du maïs. Mais il y a certaines plantes qui, elles, en produisent des graines qui ressemblent à la graine qui va être semée.
Les fourbes.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je les trouve malines.
Oui, bien sûr. C'est comme ça que
Et en fait, choses. Voilà, elles sont mimétiques un peu de la graine. Elles sont triées, elles échappent au tri et elles se font semer en même temps que les graines. Donc, on les sème, en fait, quelquefois.
D'accord, oui. Puis après, il y en a qui peuvent être dangereuses aussi, qui ressemblent, par exemple. Enfin, je sais pas, je pense les carottes, et puis certaines ombellifères qui peuvent être dangereuses éventuellement. Il y a ça aussi. Quoi.
Oui, voilà, il y en a certaines qui ressemblent. Alors, en règle générale, sur l'exemple cité, là, il n'y a pas trop de confusion possible. Par contre, c'est vrai que certaines plantes adventices. Donc dans les champs, on va s'habituer avec ce nom-là, hein, ça...
Adventice.
Ouais. Sont ciblées de longue date en fait. Il y en a une qui s'appelle le datura par exemple, dont les graines sont très petites, qui est une plante qu'on va retrouver dans les moissons par exemple, dans les cultures de céréales. Et le problème, c'est que ces graines en fait abîmer la farine. Et on va avoir ces effets plutôt hallucinogènes ou autres peuvent se manifester.
Ah oui, c'est pas mortel, mais
ça pose quand même quelques petits soucis.
D'accord. Ah oui. Donc il y a quand même des bonnes raisons pour lesquelles on veut aussi les maîtriser, enfin notamment en agriculture.
Ouais, voilà. Et puis celle-là, le datura rentre aussi dans une autre catégorie qu'on va évoquer, qui sont les plantes exotiques envahissantes, en fait.
C'est ça.
Mais sinon, dans les mauvaises herbes, je dirais locales, on n'a pas trop de... Non, j'ai pas en mémoire, moi, de plantes problématiques de ce point de vue-là. Les ombellifères, par exemple, toxiques, vont grandir dans d'autres lieux que celles...
Que les carottes.
Les champs de carottes, quoi.
Ah, d'accord. Bon, ça va. On est sauvés.
Ouais.
Donc... On a déjà commencé à faire un petit peu le panel de ce qu'on pourrait appeler ces adventices. Donc c'est quoi, ouais. En gros, quelles sont les catégories peut-être de plantes alors peu désirées, on va dire.
Bah en fait, il y a quelques grandes familles botaniques comme ça qui composent ce groupe. On va retrouver les grands groupes classiques. En fait, chaque grande famille botanique à quelques espèces qui grandissent comme ça dans les champs, dans les jardins, dans les cultures. En fait, j'ai failli dire mauvaises herbes.
Ouais, voilà.
Les adventices sont principalement remarquées dans les zones que l'on cultive, en fait. Quoi. Et là, il n'y en a pas de dédié. Alors, si, il y a peut-être un groupe qu'on peut citer quand même, c'est celles qui sont liées aux moissons, on va appeler les messicoles. Et là, c'est qui aime les moissons, ou qui aime les plantes qu'on cultive, les céréales principalement. D'ailleurs, dans ce groupe d'adventices liés aux moissons, il y a de grandes raretés. En fait, l'emploi des produits, des phytoncides, là, eh bien, a complètement éradiqué, dans certains endroits, ces plantes-là, qui se retrouvent sur des listes même d'espèces protégées, pratiquement.
Ah ouais, par exemple
Par exemple... je n'ai pas d'exemple là en tête qui me vient. En Bretagne, on n'en a quasiment plus, en fait.
Ah ouais, simplement, en fait.
Tout simplement.
D'accord. Et sinon, alors, on l'a évoqué aussi, enfin, si, il y a ces plantes qui sont...
Le bleuet.
Ah, oui, bleuet.
Je ne suis pas réveillée.
Ah ouais, c'est considéré comme une...
C'est une messicole.
Adventice messicole.
Voilà, et c'est une plante qui a énormément régressé. Le bleuet sauvage, on ne va pas compter les bleuets ornementaux, qui n'ont rien à voir avec le sauvage, d'ailleurs, à part que ça a un air de bleuet. Et ces plantes-là, en fait, on les remarque, on les voit plus, quoi.
Alors si, moi j'en ai vu dans mon jardin qui sont venus tout seuls, mais je ne sais pas si c'est des sauvages ou des ornementaux irrités.
C'est un peu le problème, justement.
Ouais, c'est ça. Et puis sinon, alors on en a parlé aussi un petit peu, il y a ces plantes qu'on dit invasives, envahissantes. Alors il faut peut-être refaire du vocabulaire là aussi, c'est quoi
Ouais, il y a un grand travail de vocabulaire à faire, d'ailleurs, sur ces deux champs-là, mauvaises herbes ou bien plantes invasives. Parce qu'en fait, c'est des termes très, très, très marquants, très péjoratifs. Et les espèces invasives, en fait, maintenant, on se force à oublier ce mot-là. Et on les nomme carrément, de façon un peu plus complexe, mais plus claire, espèces exotiques à caractère envahissant. Alors, ça fait un peu long, mais en gros, avec ce terme-là, on a tout, quoi.
Alors, par exemple, oui.
On va avoir... on sait de quelle est leur origine. Elles sont exotiques. Donc, on va pas compter dans ce groupe-là toutes les locales indigènes, pour le coup, ne rentrent pas dans ce groupe-là. Et envahissantes, ça veut dire qu'elles vont s'installer dans les milieux naturels et prospérer.
Et puis, au détriment des plantes locales aussi, il y a ça.
À la limite, si elles ne se font pas remarquer, il n'y a aucun problème. Et il y en a quelques-unes d'exotiques qui vont prospérer tranquillement, mais sans poser problème.
Ouais, par exemple, je sais pas.
Par exemple, la vergerette mucronée, la petite pâquerette qu'on trouve en pied de mur, là.
Ah, on en trouve partout, c'est formidable.
Voilà, elle est sur les voiries, elle occupe les pieds de mur. Les gens l'acceptent bien, en plus, parce qu'elle est jolie.
Ben, c'est ça. Elle reste fleurie très longtemps.
Elle reste fleurie très longtemps. Donc voilà, donc là, quelque part, elle rend un petit service d'embellissement.
C'est ça.
Donc on l'accepte.
Et en plus, elle est facile à enlever si vraiment on veut l'enlever.
Tout à fait. Ouais, le buddleia et pas non plus quelque...
L'arbre à papillon.
L'arbre à papillon. Il va prospérer, lui, bien se développer dans les milieux perturbés.
Les friches,
les zones qu'on a bien remuées, les bords de route, des zones de remblai, des choses comme ça. Donc des zones où, on pourrait dire, entre guillemets, pas des vrais sols.
Ouais.
Et on ne le trouve pas en milieu vraiment naturel. On ne le compte pas, il ne va pas coloniser les haies, par exemple. Ouais. Après, il peut poser quelques petits problèmes sur des milieux semi-naturels, qui ressemblent à son milieu d'origine. C'est les pans de falaise, par exemple, en littoral ou des choses comme ça.
Ah oui, pourquoi ça serait un problème?
Parce qu'en fait, là, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il va... être concurrente des plantes locales.
Ah oui, d'accord.
Et elle ne rend pas le service de soutenir les invertébrés locaux, par exemple, elle prend de la place dans le milieu, mais elle n'est pas utilisée par tous les acteurs du milieu. C'est ça le souci. Et elle va effacer les plantes locales qui, elles, jouent un rôle dans le milieu.
Et elle ne permet même pas de fixer la dune, par exemple, non à peine ou alors, la falaise, d'empêcher la falaise de s'effriter, par exemple.
Non, même pas.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
La griffe de sorcière peut faire ça, par exemple, par rapport à la dune. Mais à la limite, on lui demande... Il y a des plantes locales qui le font très, très bien. Il faut garder la végétation locale. Et souvent, les exotiques posent cette question-là.
Bon, y a la renouée du Japon, hein, par exemple, qui prolifère énormément. Est-ce que c'est un problème
Elle peut être problématique, celle-ci, dans les milieux humides, quand elle va poser ce problème-là. Par ici, potentiellement un peu moins. C'est marrant, dans notre région, elle est aussi très cantonnée à des milieux assez perturbés.
Bord de route surtout.
Bord de route, mais dans l'est de la France, en Allemagne, elle est dans le sous-bois. Dans le sud-ouest de la France, elle est dans les zones humides, mais elle prend la place justement des plantes de zones humides. Donc on la considère quand même d'un œil assez dubitatif et on va essayer de la contrôler. Au rayon vocabulaire, il y a un terme qu'il faut un peu abandonner vis-à-vis de ces plantes-là, c'est éradiquer.
C'est marrant. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas la peine d'essayer, de toute façon, ça fonctionne pas. Mais il y en a qui se régulent elles-mêmes, de toute façon, des plantes qui sont initialement exotiques, envahissantes, et puis finalement, elles vont pas arrêter de prospérer au bout d'un moment, c'est ça.
Oui, c'est ce qui se passe. J'en cherche une là. Il y avait alors on va quitter un peu notre région, mais en Méditerranée, une algue exotique là qui est. Il y a des articles il y a quelques années là qui nous. En plus, c'est très vite très, très, comment dire, démonstratif, effrayant. Donc, elle allait envahir la Méditerranée. Elle a été c'est beaucoup développée, puis elle a complètement régressé. Donc, c'est ce qu'on espère avec certaines de ces plantes, c'est qu'elles, s'indigénaise elle-même, tranquillement. Ouais. Qu'elle s'intègre dans le nouveau espace où elle se trouve.
Ouais, puis au bout d'un moment, elles sont plus exotiques, parce qu'il faut quand même se rappeler que la tomate ou la pomme de terre, c'était des plantes exotiques au départ.
Voilà, ouais.
Voilà. Et puis finalement, maintenant, elles sont de chez nous.
Ouais, alors l'autre critère pour qui définir ce niveau d'invasivité, c'est qu'elles se reproduisent elles-mêmes aussi, par leurs propres moyens. Par exemple, le maïs ne le fait pas. Il est très très présent, il vient aussi d'Amérique du Sud, mais il ne se reproduit pas tout seul.
Non, donc, c'est vrai.
Il ne se diffuse pas.
D'accord. Ouais. On a parlé en gros de ces plantes-là qu'on n'aime pas trop. Et puis, il y a d'autres plantes qui n'interviennent pas dans l'agriculture, mais sur lesquelles nous, les amateurs jardiniers, avons un regard donc négatif. Si elles peuvent éventuellement concurrencer au potager, mais en fait là c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière, culturellement derrière ce regard ? Je sais pas, les orties, ça pique, ok, mais bon, les pissenlits, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les pissenlits quand on est jardinier de base ?
Peut-être parce que on traîne cet atavisme agricole d'avoir donc des champs ou des jardins propres. Propres au sens les ressources du sol doivent être juste réservées aux plantes qu'on cultive. Voilà. Ça s'est étendu aux non-jardiniers ou aux non-paysans qui, eux, ont des jardins plutôt paysagers, enfin pelouses ou autres. Et là, on continue à vouloir... Une pelouse doit être de l'herbe, donc il faut qu'il n'y ait que de l'herbe. Sauf qu'une pelouse, finalement, c'est une prairie en devenir. Et donc, à un moment donné, dans la nature, le cortège de plantes s'organise, se met en place. Et si on n'est pas un hyper spécialiste de la pelouse et du gazon, et qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut pour avoir qu'une herbe ou deux, on va avoir tout un tas d'autres plantes qui vont venir s'installer et qui vont bien supporter... le traitement qu'on fait subir à notre gazon, qui est de le tondre assez régulièrement. Et donc là, on aura le pissenlit, qui voyage très très bien, le vent en train de partout.
Et puis qui est costaud en plus.
Il supporte le piétinement, on piétine un peu les pelouses. On va avoir des plantes à rosettes, comme ça on les appelle, les plantains, la petite pâquerette, le pissenlit, voilà quelques-unes qui vont supporter ça. Les mousses également, alors on n'est pas dans les herbes stricto sensu. Mais c'est aussi une plante qui n'est pas très désirée dans les pelouses. Et on va entreprendre tout un tas de manips pour tenter de s'en débarrasser. Alors, Heureusement, enfin, le désherbant sélectif, c'est mort. Donc,
on n'a plus le droit. Voilà, c'est clair.
Mieux, je suis bien content.
Enfin, ceci dit, on avait encore droit dans certains coins. Alors, pas dans les jardins privés, mais dans, notamment dans les cimetières. On avait droit encore. Et puis là, c'est fini aussi dans les cimetières.
Oui, mais même dans les cimetières, les communes, les collectivités avaient même anticipé, je trouve, je pense, le mouvement des jardins avec le zéro phyto, là, les politiques qui sont mises en place dans pas mal de municipalités. Brest Métropole en est une, mais il y en a d'autres, pas mal d'autres sur le territoire. Parce qu'ils voyaient l'impact sur la ressource en eau énorme des substances qu'on utilisait, donc un impact santé très fort. Ah ouais, c'était la folie.
Oui, c'était la pollution, quoi, en fait.
Source de pollution, des molécules, les molécules, les matières actives de ces produits qu'on applique dans un cimetière, par exemple. Un cimetière, par nature, ça ne retient pas l'eau. C'est des sols très drainants, ou imperméabilisés. Et ben voilà, quand le cimetière se fait rincer par une pluie, tous les produits qu'on mettait dessus, on devait les retrouver un peu plus bas sur le bassin versant. Et donc,
Donc les pissenlits maintenant poussent dans les cimetières.
Oui.
Alors, certaines personnes s'en désolent encore, mais en fait, c'est vrai. Pourquoi ça serait un problème qu'il y ait des pissenlits dans les cimetières finalement.
Ça dérange.
Ouais, non mais c'est vrai.
Ouais, voilà. Bah, en fait, c'était toujours cette histoire d'esthétique, quoi.
Voilà.
Et puis il y a l'aspect qu'on a de l'image que l'on a de ces espaces qui sont très minéraux en règle générale.
En France, en tout cas, c'est vrai qu'un cimetière, c'est les graviers.
Français,
c'est...
Il a été façonné paysagèrement d'une certaine façon, on va dire. Mais c'est pareil. J'ai eu un témoignage une fois de fossoyeurs de cimetière de Brest avec qui je travaillais justement sur cette question-là, et des anciens de ces équipes-là qui s'engageaient justement dans la gestion sans produits phyto des cimetières. Nous ont expliqué que cette pratique de l'entretien à outrance du cimetière datait en gros des années 80, non pas plus que 1980.
Ah oui, c'est si récent que ça.
Qu'avant cette période-là, et avant la Toussaint, les cimetières, il y avait de l'herbe. Au moment de la Toussaint, ils mettaient un gros coup de bourre, et là, ils nettoyaient le cimetière. Mais en règle générale, non, l'herbe poussait dans les cimetières, en fait. Et les cimetières, d'un point de vue écologique, c'est pas un champ. Donc... c'est pas, comme on dit, c'est pas très poussant, en fait. Les sols sont peu fertiles, ça garde pas l'eau, tous ces gravillons, ces zones sablées et autres, là, les murs et autres, donc voilà.
Et puis on cherche pas à cultiver quoi que ce soit dans les cimetières, donc ça ne fait pas de concurrence à d'autres plantes, ça c'est
exactement.
Sûr. Et puis ça peut être joli, accessoirement. Enfin, c'est vrai que moi, je suis vraiment fan des cimetières anglo-saxons. Ce sont des jardins, en fait. C'est comme ça qu'on pourrait aller voir nos cimetières.
Exactement, finalement. En fait, la fleur peut amener ça met de la couleur, c'est joli. Ouais, comme c'est paysagèrement, ça peut être très sympa. On va avoir des plantes, en plus, qui sont peu exigeantes. Donc on les a déjà, on les a enlevées, mais on les a déjà. Des orpins, la linière cymbalaire, qui s'appelle aussi la ruine de Rome, qui va habiller qui habille les murs généralement des cimetières, qui va se retrouver autour des sépultures. Une plante qui n'est pas tout à fait indigène, mais une petite gentiane, là aussi, qui va occuper ces espaces-là. Quelques graminées, mais voilà, on traverse un épisode là, un peu sans eau, sans précipitation marquée. La plupart des cimetières sont secs, en fait, et la végétation de graminées, là, le pâturin qui a poussé, il s'est desséché. Les vulpins vont se dessécher, vont aussi se dessécher. Donc, la gestion se fait peut-être presque toute seule.
C'est ça, on se fatiguerait moins quand même, déjà, si on n'était pas obsédé par ça, la moindre petite pousse.
Et puis les agents communaux en charge de ces espaces-là pour avoir d'autres tâches, quoi. D'autres travaillent d'une autre manière. Ils ont réaménagé les cimetières pour les rendre plus faciles à travailler mécaniquement, par exemple.
Voilà. Et puis, il y en a qui enherbent leur cimetière et qui assument, commencent à assumer le fait qu'il y ait des fleurs, enfin des plantes sauvages.
Voilà,
et
puis qui rappellent aussi aux familles que l'entretien de la tombe leur revient, par exemple.
Aussi.
Et il y a des dépendances des sépultures. Et puis, il y a des espaces... qui sont à la charge, je vais dire de l'usager, c'est peut-être pas le bon mot, mais des familles, des propriétaires de la concession, en fait.
Aussi. Ouais. Et puis là, on l'a évoqué déjà, mais ces plantes, en fait, qu'on dit donc mauvaises herbes adventices, elles ont aussi des tas de rôles écologiques qu'on ne connaît pas. C'est ça, est-ce qu'on pourrait en parler de leur utilité, puisqu'il faut parler d'utilité parfois.
Oui, voilà. J'aime pas trop parler d'utilité, mais...
Bah non, je sais bien, mais parfois pour convaincre certaines personnes.
Oui, voilà, en fait, elles rendent des services. Voilà,
des services.
C'est une approche aussi, qui évoque l'utilité de ces espèces. Alors, c'est pas des services directement pour nous, quoique, mais elles ont une place importante dans les milieux, dans les écosystèmes, en fait. C'est des plantes qui sont des ressources, qui produisent des graines, qui sont des ressources pour les oiseaux, en période hivernale, par exemple, derrière une récolte de blé, si on est dans les champs, même dans les jardins. Si on n'a pas retourné la terre et si on n'a pas déchaumé, on va avoir la végétation locale qui s'exprime. C'est généralement tout un cortège de petites plantes. On les appelle aussi des plantes, la végétation spontanée,
très bien,
qui vient toute seule. Et ce sont toutes des adventices. Et en fait, les oiseaux hivernants, donc qui viennent du nord de l'Europe, qui passent chez nous, peut-être pour poursuivre leur trajet ou qui stationnent sur ces cultures, vont s'alimenter de des graines, de la capsule Bursa Pasteur, du mouron des champs, du pissenlit. Le pissenlit aussi produit des graines qui sont mangées par les oiseaux, bien sûr. Donc voilà, donc ça, et puis en période...
Et quand on sait que les oiseaux ne vont pas très bien,
c'est un soutien en fait qu'on leur apporte dans ce voyage un peu épuisant quand même de voyage de migration. Et l'autre chose intéressante, c'est que ces plantes sont aussi par exemple un support pour les pollinisateurs. Et ça, on l'oublie un petit peu, mais 80% des légumes, des plantes que l'on cultive ont besoin d'être pollinisées par les pollinisateurs. Et les pollinisateurs ont besoin des fleurs pour pouvoir assurer leur reproduction. Et les pollinisateurs assurent la reproduction des plantes. Et nous, quand on enlève des supports, là, donc ces plantes-là, par exemple, adventices, quand on est un peu trop drastique dans la gestion, on va aussi se priver du service de pollinisation, potentiellement. Quoi.
Donc, quand on dit pollinisateurs, donc il y a les abeilles, mais pas seulement. Il y en a plein.
Papillons, cirfes, bourdons. Et puis dans les abeilles, je profite de la perche qui m'est entendue.
Allons-y.
Là, il y a l'abeille domestique, c'est une espèce. Les abeilles solitaires, c'est 1000 espèces pratiquement qui travaillent à côté. Ça plaît moyennement aux apiculteurs en général quand on rappelle ça, mais qui travaillent plus que leurs abeilles presque, de façon complémentaire.
En termes de pollinisation, elles pollinisent plus.
Ouais.
C'est ça. Ah, ouais.
Oui.
Puis il y a les bourdons aussi.
Les bourdons, qui est une autre. Notre type d'abeilles, si on veut. Mais les abeilles, elles aussi bénéficient, bien sûr, des ressources offertes par les adventices, là. Mais après, l'abeille domestique, elle recherche des plantes en abondance, quoi.
Ouais.
Les adventices, elles sont plus dispersées, quand même. Et ça va satisfaire les abeilles solitaires.
D'accord. Et les papillons sont vraiment, ont vraiment besoin du buddleia, là, parce que on dit que c'est l'arbre à papillons, mais...
Ils n'en ont pas besoin, parce qu'en fait, ils vont s'alimenter dessus. Donc, le buddleia, on a tendance à penser que le buddleia détourne les papillons des plantes locales qui ont besoin de la visite du papillon pour pouvoir être pollinisées et produire des graines, en fait.
Bon. Est-ce que c'est vrai? Oui, on ne sait pas.
Ouais. On regarde ça d'un petit peu près, là, et on ne sait pas trop, quoi. Mais peut-être que le buddleia va soutenir aussi le papillon... quand ça manque de ressources alimentaires à côté. Quoi. Mmh. Et ce qui est clair, c'est que le papillon ne pondra pas sur le buddleia, parce que ce n'est pas la plante avec laquelle il a évolué, alors que il doit pondre sur un certain type de plante qui l'attire justement à ce moment-là. Quoi.
Et d'autres fonctions éventuelles de ces plantes, je ne sais pas, plus pour structurer le sol, elles ont d'autres rôles éventuels?
Oui, on peut considérer que c'est ce couvert végétal naturel est un bon couvre-sol, donc va préserver l'évaporation, va préserver les sols des intempéries hivernales, va contribuer à retenir l'eau, va contribuer à conserver le carbone dans le sol, par exemple. Donc, on a un tapis naturel qui se met en place, quoi. Alors après, on pourrait se dire, ouais, mais elles vont grainer, j'en aurai partout, ça va être l'horreur et tout. Faut revenir à la définition du début. Elles viennent avec, de toute façon. Donc, à chaque fois qu'on remue le sol, on remet des graines anciennes de ces plantes en situation de germer.
Ah ouais.
Ça sera le cas des rumex, ça sera le cas des chardons, de toutes. En fait, c'est quelque chose dont on ne va jamais se défaire.
Donc, il ne faut pas y toucher, en gros, quoi, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a un potager, par exemple?
On va tout à fait comprendre qu'il doit devoir gérer l'enherbement de son jardin. Pour pouvoir faire de la place pour les plantes qu'ils cultivent. Mais à un moment donné, quand la plante elle a dépassé, par exemple des fèves, quand elles ont dépassé la couche d'herbe, on n'a plus besoin de se préoccuper du...
La concurrence.
La concurrence, ouais. Voilà. Et puis, le bon outil pour le jardinier amateur, c'est le paillage. Le paillage va permettre de couvrir le sol. Donc, ça veut tous les intérêts du paillage évoqués dans tout un tas de
textes. Ça retient l'eau, notamment.
Voilà. Ouais. Mais par rapport aux adventices, ça va permettre d'entraver leur germination.
Ah oui.
Et donc là, on va pouvoir maintenir, entre guillemets, très, très bien écrit, la propreté de l'endroit, quoi.
C'est, voilà. Bon, eh bien, avec muni de toutes ces informations, on arrête de parler de mauvaises herbes, c'est ça, hein?
Ouais.
Et c'est vrai qu'elles attirent les limaces, ça, c'est juste une question.
Non, c'est pas vrai. Non, elles attirent pas les limaces. C'est le paillage,
en fait. Quoi.
C'est le paillage qui les favorise. On fait de la gestion d'un écosystème quand on jardine, donc on doit ménager la chèvre, le chou, travailler un peu dans tous les sens. Là.
Voilà. Ah, mais c'est technique le jardin, hein, c'est vrai. Merci beaucoup, Luc Guillard. Alors, on pourra réécouter cette émission, bien sûr, sur le site de Radio Évasion. Et puis, on retrouvera la dernière émission de la saison avec Bretagne Vivante. Ce sera le 23 juin. Et ce sera avec un crapaud qui accouche. À bientôt. Au revoir.